Donc, rebonjour et bonjour à ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Avant de démarrer le sujet, je vais prendre 3 minutes parce que la question que notre frère nous a posée hier, oui, c'est ça. Enfin, en fin d'après-midi, par rapport à son frère qui fait Saint-Cyr et donc qui fait l'armée. Pardon ?
Mon neveu.
Neveu, d'accord. J'aimerais juste, alors on ne va pas ouvrir la discussion, j'aimerais juste donner peut-être 3 points de repère. Le premier point, c'est que la guerre, quelles que soient ses formes, quelles que soient ses époques, c'est toujours une horreur, et avec un lot de malheurs qui l'accompagnent, quelle qu'elle soit. Je vous demande juste de penser, est-ce que les enfants et la femme des Philistins que David a émasculé, comme on a parlé de David, est-ce qu'il le méritait? Est-ce que c'est normal? C'est toujours une horreur de part et d'autre. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça amène la deuxième question, c'est qu'il n'y a pas de guerre juste. Ça n'existe pas, c'est une doctrine qui a été développée, Catherine l'a évoqué, ça a parti de Saint-Augustin, et s'est remonté à Saint-Thomas d'Aquin qui l'a structuré, etc. Il n'y a pas de guerre juste, ça n'existe pas. La seule chose, c'est qu'il y a des guerres nécessaires. Des guerres nécessaires qui sont liées à l'autorité. C'est ce que je vous ai présenté tout en début, c'est que dans la violence et de la coercition, il y a celle qui est lié à l'idolâtrie du moi, vous vous rappelez ce schéma avec ces deux pans, et celle qui est liée à l'autorité. Et c'est vrai que ça soit en tant que parent, que ça soit la fessée. Bon, je sais bien que Alfred Kuhn dit « la fesse, c'est l'enclume de l'âme », mais ça, c'est une expression qui lui appartient, pourquoi pas. Et je veux dire que ça soit l'emprisonnement, que ça soit la guerre pour, au niveau d'un État à un moment, c'est vrai que l'exercice de l'autorité dans notre monde aujourd'hui, qui est dominé par le péché, par le mal, il y a des formes de coercition qui doivent exister, qui peuvent avoir ces extrêmes, et que dans ces conditions, il peut y avoir des situations où les chrétiens ou les croyants dans l'Ancien Testament sont impliqués. Ce qui ne rend jamais la guerre belle, qui ne rend jamais la guerre juste, qui la rend juste nécessaire à des moments. Et qu'il y a eu certaines lettres, par exemple dans la Seconde Guerre mondiale, que j'ai lues, de chrétiens qui ont dit « je suis à la guerre, mais je ne peux que tirer en l'air ». Dire ça, je crois que ce n'est pas acceptable, mais chacun fait selon sa conscience. Voilà. C'est ça un peu le paradoxe de la parole de Dieu. Et quand un frère a cité David la dernière fois, effectivement, il a fait ça. Mais Dieu lui dit à la fin, tu as trop de sang sur les mains pour construire mon temple. Ça veut dire que c'est toujours un peu ce paradoxe que l'on a à vivre aujourd'hui entre une situation dans laquelle le péché règne, où il y a des contradictions fortes, une exigence du royaume de Dieu, et que les choses ne sont jamais si simples dans lesquelles et qu'il y a des situations qui sont difficiles, il y a des situations qui sont complexes. Une chose est sûre, comme je l'ai dit au début, la guerre n'est jamais... Il n'y a pas de guerre juste, il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre chirurgicale. C'est toujours une horreur pour tout le monde. Voilà. Ça, c'était juste pour quelques éléments de réponse. Alors, j'en sais rien. Au moins des pistes de réflexion. Alors, je vais laisser la place à Catherine qui va alors vous accrocher vos ceintures, vous redresser vos sièges, parce que là, vous allez voler à travers les siècles. Pour comprendre pourquoi on en arrive à la laïcité à la française. Alors, pourquoi la laïcité à la française? Parce qu'il ne faut surtout pas croire qu'on est le seul pays laïque. Les États-Unis sont peut-être plus laïques sur certains aspects que nous, même si on a l'impression du contraire. Et donc, elle va vous amener des éléments de compréhension pourquoi on en est arrivé là. Et après la pause, on verra un peu plus notre positionnement.
Alors oui, comme le dit Norbert, c'est un grand voyage, donc n'hésitez pas, si vous perdez le train en route, à lever la main pour juste être repositionné et remonté dans le train, Et pour les questions de fond, voilà, on attendra la fin. Donc, on va voir différentes périodes. La laïcité à la française, donc c'est vraiment l'héritage du passé. C'est un historien français qui s'appelle Pierre Chaunu qui disait « L'histoire ne détruit pas, elle sédimente, elle superpose ». Et c'est très vrai, en histoire du droit, on se rend compte que ben, on est fruit du passé. On ne détruit pas, mais on superpose des réalités qui surviennent à des périodes différentes. Donc, tout commence à la fin de l'Antiquité. Ensuite, on verra que l'Église et l'État vont entretenir des relations plus ou moins houleuses à travers les siècles. On a tendance trop facilement à croire que jusqu'à la Révolution française, les relations étaient paisibles entre l'Église et l'État, ce qui est faux. Même si elles étaient plus structurées, plus consensuelles, elles n'étaient pas paisibles. Sous la Révolution française, on assiste à une grosse cassure qui a sans doute des répercussions jusqu'à nos jours. C'est Napoléon qui arrive ensuite à la fin de la Révolution en 1799 et qui va organiser ce que la Révolution avait détruit et qui va mettre en place un concordat qui subsiste encore aujourd'hui en Alsace-Moselle. Et puis c'est la Troisième République qui va laïciser nos institutions à grand fracas. Ça va se passer avec beaucoup de soucis en lien avec l'Église catholique qui dominait les institutions. Donc tout d'abord, juste un petit effort de définition. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ces termes, parce que finalement, c'est pas ce qui est le plus important. Si vous faites des études de droit, les jeunes, vous reviendrez sur ces termes plus tard. Mais globalement, c'est pas ce qui est le plus important. La laïcisation, c'est un terme plus juridique. La laïcisation renvoie à la façon dont l'État va se séparer des religions. La loi de 1905, par exemple, elle ne parle pas de laïcité. Dans ces termes, on ne parle pas de laïcité. Il faut attendre la Constitution en 1946. Mais pourtant, elle va laïciser. Elle résume finalement toute l'opération de laïcisation qui a déjà commencé sous la Troisième République. Elle achève, si vous voulez, le processus. Alors que la sécularisation, c'est un processus plus lent, moins visible. La sécularisation renvoie à la façon dont nos sociétés, finalement, s'éloignent de la religion. Et il n'y a pas toujours correspondance entre laïcisation et sécularisation. Et Norbert parlait des États-Unis. Les États-Unis sont une société parfaitement laïcisée. C'est même le premier amendement à leur constitution. Le Congrès ne reconnaîtra pas de religion établie. C'est très important pour eux, c'est la liberté religieuse qu'ils ont mis donc, au premier plan. Et pourtant, la sécularisation n'est pas parfaitement achevée aux États-Unis. On le voit bien, les candidats qui instrumentalisent la religion, qui mettent en avant leur foi, les candidats présidents, les présidents candidats. Enfin, le vocabulaire religieux fait partie du paysage politique qu'on met couramment en avant son affiliation religieuse. Un historien disait aux États-Unis, l'appartenance religieuse fait de vous un citoyen plus. Ça fait sérieux. Quand vous allez chez le garagiste, vous dites, j'appartiens à la chapelle d'à côté, baptiste. Ça fait sérieux, quoi. Vous êtes installé dans la société, vous allez à l'église. Mais en France, l'appartenance religieuse va faire de vous plutôt un citoyen moins. Parce que si vous êtes musulman, on va peut-être suspecter que vous êtes un disciple de Ben Laden. Si vous êtes catholique, peut-être que vous prenez vos informations à Rome. Et si vous êtes protestant, vous êtes peut-être disciple de Bush, Trump, etc. Les fondamentalistes américains, comme on dit chez nous. Et puis, il y a d'autres pays où on voit bien aussi que ces deux termes ne vont pas ensemble. Enfin, la Suède, par exemple. En Suède, il y a une église religion d'État. C'est l'église luthérienne. Et pourtant, c'est une société très sécularisée. En Grande-Bretagne, vous avez affaire à une société sécularisée, pourtant la reine est à la tête de l'église anglicane. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de laïcité au sens strict. Et pourtant, il y a quand même une certaine laïcité, même si la reine est à la tête de l'église anglicane. C'est toujours sacré d'ailleurs, la reine est toujours sacrée. Donc voilà, je ne m'arrête pas trop sur ces termes. Donc, premier bond à travers les siècles, on remonte à la fin de l'Antiquité, qu'est-ce qui se passe? L'Empire romain s'effondre en 476, et à la place, on aura de multiples royaumes barbares qui vont se partager les ruines de cet ancien empire romain. Et chez nous, c'est Clovis qui va rassembler les tribus franques et donc constituer le royaume des Francs, jusqu'en 511. Et que se passe-t-il avec Clovis ? Clovis est le premier roi à être baptisé dans la foi catholique. C'est la raison pour laquelle, au XIXe siècle, un évêque a dit « La France est la fille aînée de l'Église », puisque son roi, en la personne de Clovis, a été le premier à épouser la foi catholique. Il se fait baptiser sur le conseil de sa femme, alors qu'autour de lui, les royaumes des Burgondes, des Visigoths, des Ostrogoths, etc., tous ces royaumes étaient ariens. Et leur roi, leur prince, était soit païen, soit arien. Donc Clovis est vraiment le seul. Hein. Ce qui fait que la papauté aura comme une tête de pont, si vous voulez, du côté du royaume des Francs. On va favoriser à cette époque le développement des monastères. Les monastères vont énormément se développer avec la règle de Saint-Benoît. Ils seront favorisés beaucoup à l'époque, surtout à la fin de l'époque franque, à l'époque de Charlemagne. Les Ariens, A-R-I-E-N-S, oui, ce sont ceux qui niaient la divinité de Jésus. À ne pas confondre avec la race arienne, hein, bien sûr. Les Ariens étaient les disciples d'Arius. Les Ariens, donc c'est l'arianisme qui a été condamné au concile de Nicée au IVe siècle. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on apprend dans les programmes scolaires. C'est vrai que j'ai tendance à croire parfois que tout est... que vous êtes tous des gens parfaitement savants. J'oublie qu'il y a des très jeunes au milieu de nous. Alors ensuite, donc, après les Mérovingiens, donc c'était la dynastie de Clovis, on a la montée au pouvoir des Carolingiens, avec Pépin le Bref, Charlemagne et son fils, Louis le Pieux et d'autres. Et ce qui est nouveau avec cette dynastie des Carolingiens, c'est que les liens vont se resserrer avec l'Église catholique. Sous les Mérovingiens, on était quand même encore assez païens globalement dans la société. Les liens se resserrent, on va reprendre le sacre des rois. Pépin le Bref est sacré, Charlemagne est sacré. On reprend l'institution hébraïque de l'onction d'huile, comme Saül, David, Salomon et les rois de l'Ancien Testament avaient été sacrés. Et c'est à cette époque aussi que les états pontificaux se mettent en place. Pourquoi ? Parce que Pépin le Bref vient voler au secours du pape qui est menacé par les Lombards, une tribu du nord de l'Italie. Et donc, pour assurer la sécurité du pape, on lui accorde un grand territoire tampon, important, hein, c'est tout ce qui est en bleu sur la carte. Donc, c'est un énorme tampon. Et cet énorme tampon de protection donc, va subsister jusqu'en 1870 dans les relations internationales, ce qui veut dire que des siècles d'histoire sont déjà posés avec l'avènement de Pépin le Bref en 751. Et Pépin le Bref, c'est le père de Charlemagne. Charlemagne continue sur cette lancée, on va favoriser les monastères, Charlemagne va vouloir convertir les Saxons en les baptisant dans le Rhin, hein, comme on disait à l'époque. Charlemagne, qui était encore très païen, il était polygame, mais l'Église catholique a fermé les yeux. Ben pourquoi ? Parce qu'il s'est voulu un peu le sauveur de la chrétienté, celui qui repoussait les païens, celui qui repoussait les arabes aussi, parce que c'est l'époque de la chanson de Roland avec les poussées arabes. Charles Martel, d'ailleurs, avait repoussé, Charles Martel, c'est le grand-père de Charlemagne en fait, il avait repoussé les arabes à Poitiers en 732. Donc Charlemagne et son fils Louis le Pieux, P-I-E-U-X, dans les copies d'étudiants, je vois Louis le Pieux, P-I-E-U. Louis le Pieux, c'était quelqu'un de très pieux, donc il a continué la politique de Charlemagne, il a favorisé les monastères, etc. Et il a continué aussi à lutter contre les païens et contre d'éventuelles poussées arabes au sud. Alors, on va rentrer dans le Moyen-Âge plus central, 10e, 12e siècle, et c'est une période qui est marquée par la faiblesse de l'État, parce qu'on a toujours eu des rois, mais des rois plus ou moins évanescents, qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir, et des rois plus énergiques. Philippe Auguste, par exemple, c'est un roi plus énergique. Saint-Louis, au XIIIe siècle. Philippe le Bel, au fin XIIIe, XIVe siècle. Et avec ces gens-là, évidemment, le pouvoir du roi va augmenter. Sinon, au début de l'époque féodale, ce sont les seigneurs qui exercent le pouvoir au plan local, dans leur château fort. C'est eux qui exercent la justice, qui ont un pouvoir financier, militaire, etc. Et donc, c'est l'Église catholique qui, elle, gagne du terrain. L'Église catholique, il faut bien voir que c'est le seul ciment d'unité après la chute de l'Empire romain d'Occident. Elle pratique le latin, une langue savante, elle a un droit organisé, le droit canonique, qu'elle organise de plus en plus. C'est une foi unique qu'elle propose partout en Europe. Et donc, elle va s'occuper d'assistance. L'État ne s'occupe pas d'assistance avant peut-être Louis XIV, et encore, c'est très maigre. Elle s'occupe d'éducation avec les écoles dans les monastères, les écoles au niveau des évêchés, les universités qui sont mises en place au XIIe, XIIIe siècle. Donc elle est très présente. Elle s'occupe aussi donc de sacrer les rois dans nos institutions. Tous les rois ont été sacrés depuis Pépin le Bref en 751, il a été une deuxième fois en 754, jusqu'en 1825. Vous voyez des siècles d'histoire là aussi. Charles X a été notre dernier roi sacré en 1825. Et la reine d'Angleterre aujourd'hui est encore sacrée en tant que chef de l'Église anglicane. Donc l'Église est en situation de monopole, l'Église catholique, et c'est vrai qu'elle va profiter de ce monopole aussi pour châtier les opposants. À l'époque, faire apparaître une dissidence religieuse, c'était impensable. La liberté individuelle, c'est quelque chose d'absolument impensable. Alors, les relations sont parfois aussi conflictuelles avec l'Église. Ça commence déjà avec Grégoire VII et Philippe Auguste. Grégoire VII était un pape têtu. Philippe Auguste était un roi têtu aussi. Et Grégoire VII publie ses Dictatus Papae, mot à mot, ça veut dire la dictée du pape, à la fin du XIe siècle. Et il y a presque tout du pape infaillible hein, dans ce fameux... discours dans cette fameuse lettre de la dictée du pape. Seul le pape peut user des insignes impériaux. Seul il peut se faire baiser les pieds par les princes de la terre. Il peut déposer les empereurs, etc., etc. Il peut délier les sujets de leur serment de fidélité. Il dit aussi que l'Église romaine n'a jamais erré et qu'elle n'errera jamais. Alors il ne dit pas encore en tant que pape, je n'ai jamais erré, ça on dira en 1870 avec le dogme de l'infaillibilité pontificale, mais il y a déjà les germes, si vous voulez. L'Église catholique, c'est le roc, comme on disait à l'époque, et elle doit se défendre contre vents et marées, contre tous les adversaires qui pourraient essayer de l'attaquer. Autre problème, donc il y a eu les premiers soucis entre les deux rois, en plus il y avait un problème matrimonial, tous ces rois de France qui avaient des vies matrimoniales agitées, qui voulaient répudier leurs femmes, qui cherchaient un motif de répudiation, mais le pape n'était pas d'accord. Enfin, tout ça, ça a été extrêmement compliqué. Les relations se sont envenimées avec Boniface VIII et Philippe le Bel, donc même cas de figure, parce que là aussi on avait affaire à deux personnalités très très têtues, aussi têtues l'une que l'autre. Le pape voulait se mêler du prélèvement des impôts dans l'Église de France et voulait s'occuper des nominations. Et le roi de France, lui, disait non, je suis chez moi, c'est moi qui dois m'occuper des nominations des évêques et des archevêques. Philippe le Bel va faire arrêter le pape. C'est ce qu'on appelle l'attentat d'Anani, dans le nord de l'Italie, en 1303. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Le pape a été, semble-t-il, malmené, molesté par les envoyés de Philippe le Bel, et il est mort quelques jours après. Donc, c'est à partir de là que Philippe le Bel va décider que les papes seront à Avignon. La papauté d'Avignon va ensuite descendre de là. Pourquoi Avignon ? Parce que la papauté appartenait, le comtat venaissin appartenait à un vassal du roi de France. Et puis parce que c'est plus proche que Rome. Pour surveiller le pape, il vaut mieux qu'il soit à Avignon que loin, au-delà des Alpes. Et c'est à partir de là aussi que va débuter ce qu'on appelle le gallicanisme. Ça vient du mot gallicanus, qui signifie gaulois. Et le gallicanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'indépendance de l'Église de France. Alors je vous passe les variantes, il y a eu différentes sortes de gallicanisme, mais en gros c'est ça, indépendance, autonomie de l'Église de France, qui va être organisé par différents textes au plan juridique, la pragmatique, sanction de Bourges, le concordat de Bologne, ça veut dire que le pape reste chez lui et l'Église de France se gère elle-même, sans référer au pape. Se gère elle-même sous le contrôle du roi quand même. Alors au XVIe siècle, changement, on arrive dans les temps modernes, des temps modernes qui sont annoncés par, déjà par la découverte de l'imprimerie, la Bible de Gutenberg au milieu du XVe siècle, les grandes découvertes, l'Europe va s'ouvrir au monde, et puis la réforme protestante, qui est le fruit quand même de ce grand changement, hein, de la découverte de l'imprimerie du XVe siècle. Donc les temps modernes, c'est la réforme, donc juste pour situer l'institution de la religion chrétienne de Calvin, qui est traduite en français en 1540, donc Luther en Allemagne, en France, tout allait bien, et puis, parce que François Ier était plutôt ouvert aux idées nouvelles, mais il y avait eu la fameuse affaire des placards, on avait placardé des affiches hostiles à la messe jusque sur la chambre, jusque sur la porte de la chambre du roi, qui était, je crois, Amboise. Donc quand il a vu qu'on commençait à attaquer la Sainte Messe, comme on disait à l'époque, l'Eucharistie, il a vu rouge, et donc là, les problèmes ont commencé pour les protestants. L'Église catholique, elle va réunir son concile à Trente, où elle continue sur sa lancée, elle réfute point par point toutes les attaques des protestants, elle met en place l'index des livres interdits, qui sera supprimé seulement en 1965, après le concile de Vatican II. Et bon nombre d'hommes de lettres français vont faire partie de l'index. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, et avant, Voltaire, Diderot et beaucoup d'autres. Alors, l'Église catholique donc va perdre sa situation de monopole, parce que bien sûr, en France, elle le garde, mais ailleurs, en Europe, elle le perd, parce que le protestantisme a gagné du terrain, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Hollande. Mais en France, elle le garde, et donc elle va se crisper sur ses privilèges. Alors, comme disait l'adage, une foi, une loi, un roi. Pas question de diviser cet adage. On disait c'est comme la Trinité, finalement, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une foi, une loi, un roi. Et donc les protestants, eux, n'ont pas trop le choix. Ils n'ont plus d'état civil à partir de 1685, à partir de la révocation d'Édit de Nantes. Soit ils vont partir dans la clandestinité, soit ceux qui ont les moyens partent tout simplement à l'étranger, ils vont aller enrichir les États étrangers. C'est l'époque des conversions forcées au catholicisme, c'est l'époque où les enfants sont enlevés aux familles protestantes pour les placer dans des familles catholiques ou dans des couvents. Et puis en 1787, édit de tolérance, il y a quand même eu 100 ans donc de très, très difficile pour les protestants en France. Et cet édit de tolérance porte très mal son nom. Pourquoi ? Parce qu'il accorde simplement un état civil séparé. Désormais, les protestants pourront faire enregistrer leur mariage auprès du juge du roi ou auprès du prêtre catholique, mais qui doit agir en tant qu'agent d'état civil. Il n'est plus censé faire du chantage, comme il avait tendance à le faire avant, pour obliger les protestants à faire éduquer leurs enfants, par exemple à l'école publique. J'enregistre votre mariage, vos naissances, mais voilà, les enfants devront être enseignés à l'école religieuse, devront être enseignés dans la vraie religion catholique, alors qu'on disait que les protestants appartenaient à la religion prétendue réformée. D'ailleurs, l'édit de tolérance s'appelle « Édit de tolérance envers les gens de la religion prétendue réformée ». Il prend bien soin de ne pas mentionner les protestants. Parce que mentionner les protestants, ça aurait pu irriter l'Église catholique. Alors, on arrive à l'époque révolutionnaire, donc une époque très difficile pour l'Église catholique, parce qu'elle a été associée quand même au régime défunt qu'on vient d'abolir. Alors, la Révolution va proclamer l'égalité de tous les citoyens, dont l'égalité religieuse, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuse, c'est l'article 10 de la DDHC, mais en même temps, les révolutionnaires veulent s'attaquer à la puissance de l'Église. Donc on va supprimer la dîme, on va nationaliser tous les biens d'Église, et on va casser ses relations avec le Vatican. Vous voyez en face une caricature de l'époque. Il faut espérer. J'en ai pas lire. Que ce jeu finira bientôt. Voilà. C'est le clergé, le tiers-État supportant le clergé et la noblesse. Donc on voit une dame noble, une religieuse, et le pauvre tiers-état qui représentait 80-90% de la population, qui supporte les deux ordres privilégiés. L'Église catholique appartient à un ordre très privilégié, exempté d'impôts sous l'Ancien Régime. Donc on va tout faire pour démolir l'Église dans ce qui fait sa puissance, et aussi dans ses liens avec la population, notamment en supprimant l'état civil religieux. On met en place un état civil laïque qui appartient désormais aux municipalités. Les familles devront passer par les mairies pour aller déclarer les mariages, naissances, décès. Une gravure de l'époque, le pressoir. On voit à droite ce clerc bien dodu qui va passer par le pressoir et qui ressort à gauche tout maigre parce qu'on confisque tous les biens de l'Église. Il faut leur faire payer. En fait, l'idée, c'est de faire payer aux clercs la position privilégiée de l'Église. On vous donnera les diaporamas, c'est peut-être pas la peine de prendre des photos. Oui, on les enverra, les diaporamas. Et donc, on va très loin aussi, parce que sous prétexte de liberté, de culte de la liberté, il faut supprimer toutes les entraves à la liberté, dont les ordres religieux. Pour les révolutionnaires, c'est un non-sens de s'engager à vie, donc c'est une atteinte à la liberté. Donc on ouvre les couvents. Alors on voit là aussi sur cette affiche de l'époque que ce jour est heureux, mes sœurs, où les doux noms de mère et d'épouse est bien préférable à celui de nonne. Il vous rend tous les droits de la nature ainsi qu'à nous. Ah oui, ce sont les religieux qui viennent libérer les sœurs de leur couvent et voilà, tout le monde s'en va, bras dessus, bras dessous, tout le monde est heureux, tout le monde est content grâce à la révolution qui a libéré les couvents. Sauf que tout ça, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Bien sûr, il y a eu toute une église qui est entrée dans la clandestinité. Et puis, des persécutions physiques qui commencent très tôt, puisqu'elles commencent même avant, la terreur. Déjà au mois de septembre 1792, on assiste à ce qu'on appelle les massacres de septembre. Il y a eu, je crois, 113 personnes qui ont été massacrées au couvent des Carmes à Paris. Il y a une plaque commémorative qui est derrière les fleurs, d'ailleurs. Et puis en bas, il y a une crypte. Dans ce monastère des Carmes, c'est rue de Vaugirard. Et leur seul tort, c'était d'avoir refusé de prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé. Ils avaient refusé cette constitution civile du clergé. On pense qu'à peu près une moitié du clergé l'a accepté, l'autre l'a refusé, et donc est entré dans la clandestinité. La Révolution veut aussi évacuer le souvenir du christianisme. Ça va quand même assez loin. Elle dit qu'elle veut abolir les références au régime royal, donc la monarchie nobiliaire, la noblesse et sacerdotale, le clergé. On ne doit plus avoir de souvenirs de cette France religieuse, donc on modifie le calendrier. Parce qu'une semaine de 7 jours, 4 fois 7 jours, ça renvoie trop à la création. Donc on va mettre en place des décadis, 3 fois 10 jours, pour constituer le mois, et on ne rend plus hommage aux martyrs. Les saints Pierre, Marie, Paul, etc. Je ne sais plus quel révolutionnaire disait il faut remplacer ce martyrologe dégoûtant par un herbier odoriférant. Ah oui, on a droit à des discours complètement abracadabrantesques sous la Révolution. Et donc l'herbier odoriférant, c'est le nom de fleurs, personnages. Oui, alors il y a les animaux le cinquième jour. Il y a les animaux le cinquième jour. On a gardé les noms de fleurs quand même, hein, les roses, marguerites, primevères, violettes, bégonia, tout ça c'est resté. Mais oui, les noms de bouc, poule. Et puis le dixième jour, on ne voit pas là, mais c'était la cognée. Il fallait rendre hommage aux outils du potager, bien sûr. Il y avait la cognée, la bêche, la serfouette, je ne sais quoi encore, toutes sortes d'outils. Bon, c'était un peu délirant, ça n'a pas vraiment marché, à part quelques enfants de révolutionnaires. Sinon, les gens sont restés fidèles à leur calendrier chrétien. On est allé jusqu'à débaptiser les noms de villes aussi. Marly le roi. Oh, honte! Il ne fallait pas se souvenir du roi. C'est devenu Marly l'égalité. Bourg la reine, Bourg la liberté. Saint-Bonnet le château. Oh là là, Saint-Bonnet le château, il y avait Saint et il y avait le château. Deux mauvais souvenirs. Donc, c'est devenu Bonnet la montagne, etc., etc. C'est un peu... voilà. Et puis, donc, on met en place, c'est Robespierre en 1794 qui met en place le culte de l'être suprême. On ne sait pas vraiment ce que c'est que cet être suprême, mais bon. Désormais, on doit fêter 4 grandes fêtes en lien avec la Révolution. Le 14 juillet 1789, le 10 août 1792, c'est la chute de la monarchie. Le 21 janvier 1793, c'est la mise à mort de Louis XVI. Et le 31 mai 1793, c'est l'élimination des Girondins. Les révolutionnaires les plus modérés ont été éliminés Donc on doit fêter cet être suprême. Voilà. Et puis on a également une première séparation des cultes et de l'État dans les années sous le directoire 1794-1795. Ça n'a pas vraiment duré, vous voyez à droite. Marianne qui dit « Séparons-nous, mais je garde vos biens. » Donc les chandeliers, voilà, tous les biens d'église restent possession de la République. Et Jules Michelet, qui est un historien du XIXe siècle, disait « La Révolution ne supporta aucune église. Pourquoi ? Parce qu'elle était une église elle-même. » Alors c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de ça quelque part. Hein. On ne pouvait pas supporter la concurrence. Napoléon arrive au pouvoir en 1799 et tout de suite il se montre comme il s'affiche comme étant le sauveur, celui qui allait pacifier les relations entre l'Église catholique majoritaire en France et l'État. Il est parfaitement agnostique, hein, mais il sait que la religion catholique peut quand même lui servir, et si les autres lui servent aussi, c'est pas plus mal. Donc il va tout faire pour réunifier sous un régime à peu près commun ces différents cultes. À gauche, vous voyez une médaille qui a été frappée par la monnaie de Paris pour commémorer la convocation du Grand Sanhédrin. C'était une assemblée de rabbins et de laïcs. On a repris un mot savant dans l'Ancien Testament. C'était la mode de copier des mots de l'Antiquité à l'époque. Ça faisait bien. Et qui devait organiser le concordat pour le culte juif. Donc c'est ce qu'on voit. On voit Napoléon qui se fait remettre par un rabbin à genoux les tables de la loi. Napoléon, tel un nouveau Moïse, n'est-ce pas ? C'est le sauveur de la religion juive. Et à droite, c'est très drôle. Bonaparte montrant l'être suprême aux différents peuples de la terre. Alors, il y a différents cultes, différents leaders religieux représentés. Il y a un évêque catholique, un ministre protestant, un évêque grec, un mexicain, idolâtre, adorant le soleil. Entre parenthèses, c'est le deuxième personnage à gauche avec des plumes sur la tête. Évidemment, on n'avait jamais vu ça sur le sol de France. On n'avait jamais vu ces cultes. Mais c'est pour bien montrer que Napoléon est là pour... Il va réunifier tout le monde, alors qu'il n'y a que trois religions sur le sol de France. Mais bon, bref, il réunit tout le monde et il leur montre l'être suprême. Il y a un Quaker aussi, il y a un imam, un bonze, prêtre chinois, et un prêtre de l'Hindoustan, idolâtre des Indes. On ne connaissait pas du tout, mais voilà, c'est pas grave. Alors, Bonaparte, pour essayer de satisfaire donc l'Église catholique, va lui rendre ses biens. Donc c'est quand même un effort de pacification. Les églises vont pouvoir rouvrir leurs portes. Les prêtres réfractaires qui s'étaient enfuis à l'étranger ou qui s'étaient cachés, tout simplement, vont pouvoir revenir. Et puis Bonaparte a une vision, c'est un militaire, hein, il a une vision pyramidale de la société, donc il a une vision aussi pyramidale des cultes qui existent en France. Catholicisme, judaïsme, calvinisme et luthéranisme. Gros problème pour lui, c'est les protestants, parce qu'ils sont divisés. Deux, les calvinistes et les luthériens. Les luthériens étaient plutôt en Alsace et dans les grandes villes. Les calvinistes étaient un peu plus nombreux. Il aurait bien aimé les réunir. Mais ses conseillers lui ont dit « Ne faites pas ça, parce que la bourgeoisie protestante de banque ne supportera pas cette réunion avec les luthériens. » Donc il n'a pas voulu trop les irriter, donc il y aura deux cultes. Mais il aurait bien aimé unifier tout ce beau monde sous la même chapelle. Donc avec le pape, on signe le concordat en 1801. Désormais, les clercs sont nommés et financés par l'État. Ils doivent prêter le serment de fidélité au pouvoir. Ils doivent aussi dénoncer d'éventuels complots. Si, pendant la confession, ils sont au courant que des complots se préparent, ils doivent le dénoncer. Et puis, Bonaparte maintient le mariage laïque et le divorce dans le Code civil. C'est la Révolution qui avait mis en place le mariage laïque, donc déclaré à la mairie, et qui avait introduit le divorce. Et donc, Bonaparte décide de le maintenir dans le Code civil. Il savait qu'il en aurait besoin. Il était là pour les discussions sur le divorce parce qu'il voulait se débarrasser de Joséphine, qu'il n'y avait pas donné d'enfant. Et quand il a épousé Marie-Louise, il a dit « C'est un ventre que j'épouse ». Vous voyez ce respect pour la gente féminine. Il a épousé un ventre, Marie-Louise d'Autriche, qui lui a donné un fils. Mais qui va mourir jeune, il ne va pas gouverner. Alors Bonaparte, donc parfaitement agnostique, hein, je vous disais, met en place en 1806 le catéchisme impérial. C'est vrai qu'il s'était fait sacré avant. En 1804, le 2 décembre 1804, il y avait eu le grand sacre, une fastueuse cérémonie à Notre-Dame. Et dans ce catéchisme impérial, on lit, en lien avec le sacre, « Napoléon est loin du Seigneur. » Il a reçu l'onction. Et donc, on lit, voilà, « Dieu a établi Napoléon, l'a rendu son image sur la terre. Honorer et servir notre empereur, c'est honorer et servir Dieu. » Évidemment, les évêques n'ont jamais été consultés pour la rédaction de ce catéchisme impérial, mais ils vont l'appliquer assez docilement. Et Bonaparte, donc, a cette vision globale, mes préfets, mes évêques, mes gendarmes. Tout ce monde doit servir à soutenir sa politique. La religion protestante, donc, est tolérée depuis 1787, mais elle est mise sous tutelle aussi. Comme l'Église catholique, les pasteurs sont payés par l'État, nommés par l'État. Ils doivent aussi prêter le serment de fidélité. Et surtout, ils sont brimés parce qu'ils ne peuvent pas s'organiser en synode. Ces grandes réunions de pasteurs et de laïcs, qui sont classiques dans le protestantisme, puisqu'ils n'ont pas d'instance dirigeante, ne sont plus possibles. Et les liens avec les communautés étrangères sont coupés, alors qu'elles avaient toujours été vitales, les relations avec l'extérieur, depuis l'époque des persécutions. Et on met en place, au niveau de l'Église réformée, notamment une organisation hiérarchique et aristocratique qui va marquer durablement l'Église réformée. C'est-à-dire que l'Église réformée, les Juifs, c'est pareil d'ailleurs, le culte juif sera organisé d'une manière semblable, le culte juif et l'Église réformée a à sa tête des consistoires qui sont formés des plus imposés des membres de la religion réformée. Et les Juifs, pareil. Les consistoires sont formés par les plus imposés des membres de la religion juive. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on a un suffrage censitaire qui repose sur l'impôt. Le suffrage universel n'interviendra qu'en 1848, sous la Seconde République. Et donc, on ne jurait que par la France des notables. On pensait que la richesse favorisait la vertu. Dans le Code civil, il y avait un article qui disait qu'en cas de conflit sur les salaires, le maître devait être cru sur parole. Et on y croyait dur comme fer à l'époque. Hein. On disait, ben non, le maître qui est aisé, qui a des moyens, il ne va pas tricher pour des petites sommes qui n'ont pas d'importance pour lui, etc. Alors que l'ouvrier, qui n'est pas fortuné, pourrait avoir intérêt à tricher. On y croyait très fort. Et donc toute la société est structurée comme ça. Les jurys d'assises, les comités d'inspection des écoles, le comité d'inspection de la loi de 1841 pour le travail des enfants, les consistoires des églises, ils ont tous à leur tête les membres de la communauté les plus imposés. Mais par contre, les protestants vont se sentir quand même assez redevables à Bonaparte. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de leur histoire, ils sont mis sur un pied d'égalité avec les catholiques. Ça ne leur était jamais arrivé. Donc il faut imaginer que globalement, ils vont se sentir assez redevables et ils vont pouvoir construire des temples. C'est la pleine période de construction des temples, et c'est l'âge d'or de la bourgeoisie protestante du XIXe siècle, qui va s'illustrer dans toutes sortes de domaines, la banque, les assurances, les œuvres philanthropiques aussi. Et donc tous les autres cultes, il y avait quelques méthodistes, quelques baptistes, sont dissidents. Leur liberté est très aléatoire. Le code pénal interdisait le regroupement de plus de 20 personnes. Depuis la Révolution, on se méfiait beaucoup des groupes. On avait peur de voir ressusciter des ordres comme sous l'Ancien Régime. Et donc, on a châtié les groupes jusqu'à la liberté d'association, en gros, en 1901. Donc, ça a duré très longtemps. Donc, quelques évangéliques peu nombreux. En 1814, c'est la restauration monarchique. Le roi revient au pouvoir. C'est le frère de Louis XVI, Louis XVIII, qui arrive au pouvoir. Et c'est une période un peu de revanche pour l'Église catholique. Elle se dit que là, ça y est, on a de nouveau un roi au pouvoir. Le roi est roi de droit divin, de nouveau, il met en avant cette royauté de droit divin. L'Église catholique est religion d'État, le divorce est aboli, on fait tout pour plaire à l'Église catholique. Il y a la loi du sacrilège qui punissait de mort le sacrilège simple et de la peine du parricide, la profanation des hosties. Or, le parricide, le meurtre de son père ou de sa mère ou de ses aïeux, était très sévèrement puni dans les temps anciens. On prévoyait que le coupable de parricide devait être conduit à l'échafaud, pieds nus, en chemise, la tête couverte d'un voile noir, et on lui amputait le poing droit avant de le guillotiner, en fait. C'était une mort assez horrible, hein. C'était des peines physiques qui se rajoutaient donc à la peine de mort. Ce sera aboli en 1832. Mais donc cette loi du sacrilège, elle n'a pas été appliquée, mais elle était bien symbolique d'un état d'esprit. Le retour au crime religieux, comme avant la Révolution française, où on punissait, la loi de l'État punissait le blasphème, l'hérésie, la sorcellerie, etc. En 1830-1848, c'est la monarchie de Juillet. Guizot, qui est protestant, va occuper plusieurs postes importants, notamment il sera ministre de l'instruction publique, il sera premier ministre. C'est quand même quelqu'un qui est assez conservateur. La monarchie de Juillet tombe parce que Guizot refuse la mise en place du suffrage universel. Et puis, on a la Seconde République qui se met en place en 1848, qui commence dans un grand élan de fraternité, mais qui va assez vite, durcir sa politique. Les émeutes du mois de mai-juin 1848 seront réprimées dans le sang. Donc c'est à cette époque que vont se fonder les églises libres, qui, elles, défendaient la séparation des églises et de l'État. Les autres cultes ne demandaient pas de séparation église-État, ou alors les autres n'étaient pas du tout reconnus, ils étaient complètement dissidents et très peu nombreux, ils n'avaient pas de marge de manœuvre. Et si bien qu'il y aura quelques conflits, notamment sous le Second Empire, Napoléon III, qui est le neveu de Napoléon Ier, qui était aussi un homme de poigne, supportait mal tous ces petits conventicules non enregistrés en dehors du concordat. Donc il y aura effectivement des pasteurs qui seront emprisonnés, des colporteurs qui connaîtront la prison sous le Second Empire, des temples aussi fermés. Vernoux, en Vivarais, avait voté non après le coup d'État de Napoléon III en 1851. Et apparemment, l'empereur avait demandé à son préfet, puisque le préfet existe depuis Napoléon Ier, de surveiller ces communautés protestantes, puisque Vernoux, c'était une commune à majorité protestante. Et le seul canton de France qui vote non, qui ose voter non, alors qu'il y avait une propagande pour voter oui au plébiscite, ça faisait un petit peu tâche. Alors, l'Église catholique, depuis la Restauration, elle est restée quand même assez conservatrice et elle voudrait regagner du terrain. Les pouvoirs politiques ne savent pas très bien sur quel pied danser, parce qu'ils veulent s'éloigner de l'Église catholique, mais en même temps, ils comptent bien sur elle pour éloigner ce qu'on appelait le péril socialiste. Les idées de Marx sont publiées en France, le manifeste du Parti communiste en 1848, Le Capital est traduit en français en 1867. Donc ces idées socialistes se répandent, ça fait peur. Et on hésite énormément. L'Église catholique, c'est un rempart, puisqu'elle condamne haut et fort le socialisme. Si bien que cette Église qui défend toujours le parti de l'ordre, qui défend toujours la monarchie, elle se fourvoie aussi dans cet esprit de conservation. Elle veut revenir à l'ancien régime. Elle veut revenir au système pré-révolutionnaire. Alors, en 1850, la loi Falloux, c'est le nom du comte de Falloux qui était ministre de l'instruction publique, va donner à l'Église un contrôle total sur l'éducation. Liberté d'enseignement secondaire, l'Église met en place tous les établissements qu'elle veut au niveau du secondaire, et en plus, elle pourra contrôler, superviser les instances de l'enseignement public. Contrôle des programmes, contrôle des nominations. On a beaucoup dit à cette époque qu'avec la loi Falloux, ce sont les instituteurs qui reçoivent la férule, qui reçoivent les coups de bâton, en fait. Les coups de bâton parce que ils sont surveillés par l'Église. Ce sont les évêques qui vont superviser les nominations et les programmes. Alors, Pie IX est à la tête de l'Église catholique pendant plus de 30 ans. Pie IX est tout à fait le symbole de cette Église catholique réactionnaire. Il promulgue en 1864 le catalogue des erreurs modernes, le Syllabus Errorum. Et dans ce Syllabus Errorum, vous le trouverez sur Internet, on trouve tout ce qui n'est pas catholique, tout. Donc le protestantisme, la franc-maçonnerie, le socialisme, le communisme, la libre-pensée, les sociétés bibliques, le mariage civil, tout. Tout ce qui n'est pas catholique, en gros. Et c'est Pie IX qui va promulguer le dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870. Depuis 1870, le pape ne peut pas se tromper lorsqu'il prêche en matière de dogme. On dit que cette période, c'est l'âge d'or de l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, c'est un peu le contraire du gallicanisme. Gallicanisme, indépendance de l'Église de France par rapport à Rome. Ultramontanisme, ça veut dire au-delà des montagnes, au-delà des Alpes. Les ultramontains veulent que le pape, l'Église en général, prenne un peu plus de pouvoir, si vous voulez, au niveau de nos institutions. Alors, le pape perd son pouvoir temporel, il perd ses états pontificaux, mais il va gagner en pouvoir, entre guillemets, spirituel, avec le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, la Troisième République s'installe en 1870. Il y a une période un peu de no man's land jusqu'en, jusqu'en 1875. Les lois constitutionnelles sont votées en 1875. Et les républicains se rendent compte que s'ils veulent installer la République, il faut se séparer de l'Église catholique. Il faut mettre fin à cette tutelle de l'Église catholique sur les institutions. Jules Ferry disait qu'il faut supprimer le banc des évêques. Le banc des évêques, voilà, qui était partout dans les comités de surveillance de l'école, notamment. Et donc, on va laïciser à tour de bras les institutions à partir des années 1880, parce que les républicains sont majoritaires dans les deux chambres, juste à partir des années 1879. Donc, dans l'enseignement, on va dissoudre les congrégations enseignantes. Dans les hôpitaux, on remplace les religieuses par un personnel laïque. Les cimetières sont enlevés de la main des églises catholiques, on va les municipaliser. On introduit le divorce dans nos institutions, qui avait été aboli en 1814, donc sous la Restauration. Et donc c'est une période assez difficile pour l'Église catholique, puisqu'encore une fois, on va renvoyer les congréganistes. Beaucoup vont partir à l'étranger, dans le nord de la France, ils vont aller en Belgique, dans la famille de Gaulle notamment. Son père enseignait dans une institution religieuse. On est parti de l'autre côté de la frontière en Belgique. C'est vraiment une laïcité de combat contre le catholicisme qui ne veut pas de la République. Alors, Léon XIII arrive au pouvoir à Rome. Léon XIII est un pape beaucoup plus conciliant. On l'a appelé le pape des ouvriers, parce qu'il a promulgué une encyclique dans laquelle il critiquait l'exploitation du monde ouvrier. Et Léon XIII a une autre doctrine. Pour lui, le combat entre la République et l'Église a assez duré. Il faut il faut rallier la République. Son discours, c'est le ralliement. Il faut rejoindre la République. Alors, sauf que ce ralliement ne convainc pas tout le monde. Une partie des catholiques n'en veut pas. Une partie des catholiques ne regarde que sous l'Ancien Régime et veut la monarchie. On a hésité, de toute façon, entre la République et la monarchie. La République avait été votée à une voix de majorité seulement en 1875, donc c'était vraiment tangent. Et ce ralliement, cette politique du ralliement est critiquée aussi par les républicains. On voit cette caricature à gauche. Voilà, soudain, tous ces clercs, tous ces évêques avec leurs crosses qui veulent rejoindre le train de la République. C'est un peu louche. Pourquoi, soudain, veulent-ils rallier le train de la République? Et c'est vrai qu'historiquement parlant, c'est pas très net. Certains pensent que le pape estimait que la guerre avait assez duré, qu'il fallait rallier la République, que les catholiques devaient fonder des partis politiques, s'unir dans un premier temps aux partis politiques royalistes ou bien centristes, et que dans un second temps, quand ils seraient peut-être majoritaires, ils pourraient changer les institutions. Donc il y avait peut-être une arrière-pensée dans cette politique du ralliement. En tout cas, les caricatures de l'époque sont féroces pour l'Église catholique. La République et l'Église, image d'une querelle, c'est la première page d'un manuel. Donc on voit les clercs qui endoctrinent les enfants, on voit les crucifix, les diablotins, les chapelets qui tombent dans le cerveau de nos enfants. Et à droite, on voit la pieuvre de Loyola. Pourquoi ? Parce que les jésuites avaient beaucoup d'établissements. Ils formaient l'élite de la société, les militaires, les industriels envoyaient beaucoup leurs enfants chez les jésuites. Et donc on voit que cette pieuvre a des tentacules partout, dans les usines, dans l'armée, dans les colonies, dans l'enseignement. Que Marianne essaie dans la magistrature, Marianne essaie vaillamment de lutter contre la pieuvre, mais on voit encore une tentacule là qui enserre un enfant. Et voilà, c'était ça les combats de l'époque. Alors, un incident diplomatique en 1903 va être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. C'est que le roi de France, Émile Loubet, décide de rendre visite au roi d'Italie, Victor Emmanuel, puisque l'Italie s'est reconstituée. Depuis 1870, donc les territoires du pape font partie de cette jeune Italie. Et si le roi de France va rendre visite au roi d'Italie, Victor Emmanuel, c'est qu'il reconnaît un état de fait, c'est qu'il approuve ou qu'il cautionne cette perte des états pontificaux par le pape. Alors, le pape pousse des cris d'orfraie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le roi de France reconnaît la spolia... le président de la République française, pardon, Émile Loubet. Le président de la République française reconnaît la spoliation des États pontificaux. Et donc, voilà, on est engagé sur la loi de séparation à partir de là, la loi de séparation des Églises et de l'État qui est votée en 1905. Voilà, les sœurs tombent, le concordat tombe à l'eau, la République d'un côté, le clergé de l'autre. Donc, article 1er de la loi, la République assure la liberté de conscience. Article 2, elle ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Le Concordat disparaît, sauf en Alsace-Moselle. Il y a quelques jours fériés supplémentaires là-bas, deux jours fériés supplémentaires, des cours de catéchisme à l'école, et puis les nominations des évêques aussi par le chef de l'État, mais c'est assez symbolique. Les décrets de nomination sont signés au journal officiel. Donc depuis, tous les cultes sont égaux devant la loi. Alors évidemment, l'Église catholique accueille mal ce pluralisme religieux. L'Église catholique, elle a dû attendre Vatican II hein, pour accueillir les frères séparés. Donc 1965, elle a eu beaucoup de mal à accepter le pluralisme. Donc elle critique cet état de fait. Mais le protestantisme va plutôt applaudir la séparation des églises et de l'État, des cultes et de l'État. Le protestantisme réformé est touché par ces écoles aussi. Mais le protestantisme évangélique est ravi parce que, à l'époque, il se trouve sur un pied d'égalité avec les autres. Et lui aussi, maintenant, c'est la première fois de son histoire qu'il se trouve sur un pied d'égalité avec les autres cultes. Et le protestantisme évangélique a cru, à l'époque, qu'il allait pouvoir convertir la France. D'autant plus que la République avait mis en place la liberté de la presse en 1881, liberté de la réunion. Et on s'est dit, là, on a tous les outils en main pour convertir la France. Donc les relations vont s'apaiser avec l'Église catholique pendant la Première Guerre mondiale, parce que beaucoup de clercs vont mourir au combat, beaucoup de prêtres vont mourir dans les tranchées. Donc c'est l'union sacrée, on se dit que finalement les prêtres sont quand même patriotes, l'Église catholique a joué son rôle, et les relations diplomatiques qui avaient été rompues avec le Vatican en 1903 sont rétablies en 1921-1922. C'est cette année qu'on commémore le rétablissement des relations diplomatiques. Alors aujourd'hui, on a tous assisté à l'élaboration de cette loi séparatisme, loi RPR, respect des principes de la République, adoptée donc il y a bientôt un an. L'objectif, c'était de lutter, bien sûr, contre l'islam radical, mais sans le montrer. Donc on essaie de contrôler toutes les religions, et c'est vrai que toutes les religions, tous les cultes vont un petit peu faire les frais de cette loi séparatisme, puisqu'on va encadrer beaucoup plus, de manière beaucoup plus draconienne, l'instruction dans les familles, de l'instruction dans les écoles hors contrat, encadrer les associations, les dons étrangers, il faudra faire des déclarations pour les dons plus importants, on craint toujours les financements étrangers, donc on confirme le principe de neutralité religieuse du service public. En même temps, on veut lutter contre les mariages forcés. Les mères peuvent faire venir les conjoints séparément si jamais ils suspectent un mariage blanc ou un mariage forcé. Mais certains ont dit, voilà, a-t-on mis en place un nouveau concordat ? Alors pour l'instant, c'est un peu trop tôt mais pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai que les pouvoirs publics montraient une volonté de contrôler la religion. Donc une église catholique aujourd'hui, bien sûr, elle a perdu son monopole. Elle n'est plus très crédible dans notre société. Par rapport à 1905, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de l'islam. En 1905, l'islam n'existait pas, pratiquement pas, la question de l'islam n'existait pas. Et puis, on voit bien que dans notre pays, la question religieuse est toujours une question assez épineuse, qui suscite toujours beaucoup d'émotions. C'est un sujet de crispation. De temps en temps, on se crispe sur certains sujets. Par exemple, il y a eu de grandes manifestations pour le maintien de l'école libre en 1984. Je crois que c'était les manifestations les plus importantes de la Ve République. Il y a eu toute une affaire qui avait fait scandale. Un tableau dans un palais de justice à Metz, tableau de la crucifixion dans les années 2000. On était à Metz, on était en Moselle, donc hein, c'est le régime du Concordat là-bas. Mais ce tableau n'avait pas posé question jusqu'aux années 2000. Et puis des avocats libres penseurs se sont soudainement offensés de cette présence dans une France laïque. Alors que faire ? Dans un premier temps, on l'a voilé, on a posé un rideau sur le tableau. Et puis dans un deuxième temps, on l'a enlevé et maintenant le tableau est accroché, je crois, à la cathédrale de Metz. Autre affaire qui a agité les médias, l'affaire RATP, campagne en faveur des chrétiens d'Orient en 2015. La RATP fait toutes sortes de campagnes publicitaires, mais elle ne voulait pas voir affiché le mot chrétien, chrétien d'Orient. Alors elle voulait voir affiché campagne en faveur de l'œuvre d'Orient. C'était plus neutre. Mais les gens à l'époque ont dit, mais l'œuvre d'Orient, on ne sait pas ce que c'est, ça fait penser au Grand Orient de France, à la franc-maçonnerie. Et puis bon, je crois que le ministère de la Justice était quand même monté un petit peu au créneau à l'époque, et la RATP avait rétro-pédalé, et finalement elle a accepté cette affiche campagne en faveur des chrétiens d'Orient. Et puis donc plus récemment, cette loi confortant le respect des principes de la République, on voit qu'on a de nombreux ministres qui essaient de se saisir de la religion, en fait, pour montrer qu'ils veulent contrôler un petit peu les institutions, mais qui ne sont pas toujours très bien éclairés. Je ne sais plus qui disait, ils devraient bien avoir un cours d'instruction religieuse aussi, certains ministres, hein, comme Marlène Schiappa ou d'autres. Un petit cours d'instruction religieuse ne pourrait pas leur faire de mal, parce que visiblement, ils racontent parfois des hérésies aussi sur les différentes religions. Voilà sur ce que je voulais dire. J'ai essayé de pas trop déborder de mon temps. Donc, je passe la parole. En fait, petite pause.
Une pause. Oui. À moins qu'il y ait une question. Oui.
Alors, j'ai galopé à travers les siècles, mais c'est pour bien montrer comment ces siècles d'histoire, ils pèsent quand même encore sur nous, hein, qu'on le veuille ou non. J'ai pas compris.
Vous pourriez détailler le contenu de...
Alors, j'ai pas apporté les différents intitulés de la loi avec moi, mais en gros, oui, c'est le contrôle des communautés religieuses au niveau de leur financement. Je crois que c'est maintenant tous les 5 ans où il faut déposer des statuts, tous les 10, mais je sais pas exactement. Et puis surtout l'éducation en famille, on voulait la supprimer dans un premier temps. Finalement, on l'a maintenue. Les écoles hors contrat seront davantage surveillées parce qu'en fait, elles servaient aussi de paravent, hein, pour l'éducation de nombreux enfants musulmans, ces écoles hors contrat. Donc c'est ça l'idée, c'est de surveiller davantage. Mais j'avoue, oui, j'ai pas apporté mon petit pinsomme là sur le contenu détaillé de la loi. Enfin, vous la trouvez, mais vous n'avez pas encore de jurisprudence, vous n'avez pas beaucoup de détails encore. Hein. Vous allez trouver uniquement les grandes lignes, 5 ou 6 lignes. Voilà, l'école à la maison. Donc la neutralité du service public, mais ça c'est ancien, hein, on l'a répété là-dedans, mais c'est quelque chose d'ancien, ça n'a rien changé. École, communauté religieuse, le financement, oui. Mais je ne sais plus si c'est au-delà de 10 000 ou 30 000 euros, je ne sais plus. C'est pas des dons très importants, hein, qui doivent être déclarés désormais. Peut-être 30 000, je ne sais
plus. On s'arrête et on reprend dans 10 minutes, à moins 20.